Voilà, bonsoir à tous. Donc, je suis moi aussi très heureux d'être là. Mercredi dernier, lors d'une veillée à Pensier, à la communauté, il y avait des frères et sœurs de Karistein, des frères et sœurs aussi parmi vous, les étudiants de Philanthropos. Et puis, ce soir, c'est nous qui sommes ici et je trouve que c'est très beau, par des gestes bien concrets de communion, d'entraide, eh bien, de manifester ainsi notre amitié dans le Seigneur et notre communion et aussi notre désir de travailler ensemble à l'église, dans l'église du Christ. Et alors voilà, j'avais plusieurs idées, mais celle qui s'est un peu imposée à mon cœur pour cette veillée, c'est « Prie ton Père dans le secret ». Dans la lettre apostolique pour le nouveau millénaire, que sans doute vous connaissez, eh bien Jean-Paul II nous dit que pour la pédagogie de la sainteté, sainteté à laquelle nous sommes tous appelés, il faut un christianisme qui se distingue avant tout dans l'art de la prière. Et Jean-Paul II continue en disant « Nous savons bien aussi que la prière ne doit pas être considérée comme évidente. Il est nécessaire d'apprendre à prier, recevant pour ainsi dire toujours de nouveau cet art des lèvres même du divin maître, comme les premiers disciples qui dirent « Seigneur, apprends-nous à prier ». Et Jean-Paul II poursuit en disant une phrase qu'il ne faudra pas oublier « Il faut alors que l'éducation à la prière devienne en quelque sorte un point déterminant de tout programme pastoral. » Avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord l'union à Dieu. L'éducation à la prière devienne en quelque sorte un point déterminant de tout programme pastoral. Alors on ne peut pas cerner la prière en une veillée, évidemment, même une année ne suffirait pas, il faut toute une vie je crois pour apprendre à prier et être de plus en plus uni à Dieu, mais quand même quelques petites perles des saints pour nous donner quelques petites indications sur la prière. Qu'est-ce que la prière? La définition peut-être que je préfère c'est celle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui nous dit « Pour moi la prière c'est un élan du cœur ». C'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Il y a comme un élan amoureux qui monte vers Dieu dans toutes les situations de notre existence et pour Thérèse de Lisieux, ben c'est ça la prière. La prière c'est une attitude autant qu'une action et des paroles qui consiste à se tourner vers Dieu pour différentes raisons. Ça peut être pour la demande, ça peut être pour la louange, pour l'adoration, pour bien d'autres choses encore. Saint Jean Damascène dira que la prière, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu ou la demande à Dieu des biens convenables. Et Saint Augustin, la prière, et vous verrez que c'est très éloquent comme définition, la prière, que nous le sachions ou non, c'est la rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre. Dieu a soif que nous ayons soif de lui. C'est pas d'abord des techniques, c'est deux cœurs qui ont soif mutuellement et qui se rejoignent. Et Jean-Paul II dira dans le document que je citais tout à l'heure, « Dans la prière se développe ce dialogue avec le Christ qui fait de nous ses intimes, demeurez en moi comme moi en vous. » Alors, il y a multitude de manières de prier, et je me souviens lorsque j'étais revenu au Christ après une période dans des chemins que je qualifierais de pas très catholiques, j'avais une soif et je voulais toujours le meilleur, véritablement, pour aller à Dieu. Et puis, j'avais été voir un prêtre qui était à l'époque mon père spirituel. Et puis, je lui avais dit, mais finalement, quel est le meilleur chemin de prière? Quelle est la meilleure prière? Il y en a tellement. Comment s'y retrouver? Quelle est la meilleure prière? Et lui, il m'avait dit, écoute, quand tu vois ta fiancée, est-ce que tu préfères la voir au parc public ou sur une terrasse ou alors ailleurs, à la forêt? Je dis, moi, je m'en fiche complètement pourvu que je la vois. Il m'a dit, bah, tu vois, la prière, c'est un peu pareil. Hein, ce qui compte, la forme, il y en a beaucoup, il y en a qui préfèrent l'oraison mentale, d'autres ils préfèrent l'oraison de quiétude, d'autres encore ils préfèrent je sais pas quoi, la prière spontanée. Bon, quand on peut allier toutes les sortes, c'est très bien, mais ce qui compte, c'est d'avoir ce désir d'aller à Dieu et de rentrer dans une communion profonde avec lui. Alors, je voudrais m'arrêter brièvement, un peu en introduction, sur deux formes de prière parmi tant d'autres, parce qu'elles vont plus ou moins sous-tendre tout ce que je vous dirai tout à l'heure par rapport à la prière en tout temps et en tout lieu. La première chose, c'est l'action de grâce. L'action de grâce, vous le savez certainement, c'est le remerciement à Dieu. Et pour comprendre, il suffit de penser à la traduction italienne de merci, grazie, hein, grazie, merci, grâce, dire merci, ou alors l'espagnol, gracias. Je ne sais pas beaucoup d'autres noms dans ces deux langues, hein, rassurez-vous, mais enfin, ceux-là au moins on les sait. Et donc, la consonance de ces noms nous indique bien que c'est un peu la même origine que grâce. Action de grâce, c'est dire merci. Et c'est très important de rendre grâce. Bien souvent, nous sommes des enfants ingrats, souvent en train de demander des tas de choses à Dieu, mais ne sachant pas remercier. Et on n'est pas les premiers. Vous vous souvenez tous dans Luc 17, cet épisode où Jésus a été très étonné parce que 10 lépreux sont venus à lui, il les a guéris les 10, et voilà qu'il n'y en a qu'un seul qui revient pour remercier. Et Jésus dira, mais où sont les 9 autres? Et assez souvent, je pense que c'est le cas aussi pour quelques-uns d'entre nous, bien, on a le réflexe, je dirais, d'aller à Dieu pour demander quelque chose, et on a raison de le faire, mais lorsque nous sommes exaucés, d'une manière ou d'une autre, eh bien, nous oublions souvent de rendre grâce à Dieu. Et j'aime à dire que l'action de grâce rend la grâce active. Action de grâce, ça active la grâce. Et lorsque nous remercions le Seigneur pour un bienfait, il va comme multiplier la bénédiction parce qu'il nous voit être reconnaissants. Imaginons un père de famille, s'il donne quelque chose de bon à ses enfants, si l'enfant ne sait même pas remercier, s'il y a une forme d'ingratitude chez l'enfant, comme si tout lui était dû, eh bien le papa, la prochaine fois, avant de lui donner un petit plus, le nécessaire il va quand même lui donner, mais avant de lui donner un petit plus, eh bien il va réfléchir à deux fois. Alors que si l'enfant est vraiment reconnaissant, s'il voit que ce que le père lui donne, eh bien nourrit en lui l'amour, etc., eh bien le papa va être comme enclin à multiplier, je dirais, les bienfaits pour son enfant. Et la petite Thérèse, qui a compris beaucoup de choses, eh bien avait très bien compris cela. C'est sa sœur Geneviève qui nous rapporte le fait suivant. Elle dit, ma chère petite sœur me disait, ce qui attire le plus de grâce du bon Dieu, c'est la reconnaissance, car si nous le remercions d'un bienfait, il est touché et nous empresse de nous en faire 10 autres. Et si nous le remercions encore avec la même effusion, quelle multiplication incalculable de grâce. Vous remarquez au passage que c'est une femme qui a écrit. Parce que si c'était un homme, il aurait dit 10 autres, et si on dit merci pour les 10 autres, ça fera 100. Puis après, il peut encore passer à l'étape suivante, il dira 1000, puis après 10 000. Mais les femmes, à partir de 100, elles savent plus calculer. Donc, voilà. Donc, c'est Thérèse. Enfin, certaines. Voilà. Et Thérèse, donc, elle dit, voilà, si, mais c'est très important. Écoutez bien ça. Si nous le remercions, d'un bienfait, il est touché et s'empresse de nous en faire 10 autres. Et si nous le remercions encore avec la même effusion, quelle multiplication incalculable de grâce. Savoir dire merci à Dieu. Merci pour la vie, merci pour le baptême, merci pour le repas de chaque jour. C'est pas si évident. Nous sommes, nous, ici dans cette salle, même si nous vivons en communauté, pour certains d'entre nous, nous sommes parmi les plus riches et les plus favorisés de la planète entière. On a une salle chauffée, une chambre. Ce soir, quand vous allez quitter cette salle, vous n'avez pas besoin de vous demander où vous allez dormir, vous le savez. Moi aussi, j'ai juste quelques kilomètres à faire, mais je sais où est mon lit, il sera toujours à la même place en rentrant, etc. Donc, voyez, il y a comme une grâce à demander au Seigneur, mais c'est d'avoir un cœur d'enfant et un cœur d'action de grâce qui sait dire merci. Et c'est vrai qu'à notre époque, nous sommes souvent comme éduqués au murmure, à la revendication, à la protestation, à réclamer, réclamer, comme si on n'en avait jamais assez. Et si nous ouvrons les yeux, hein, je me souviens une fois d'une fille qui venait dans le groupe de prière où j'étais avant de rentrer à la communauté. Elle était aveugle. Enfin, elle était sur le point de devenir aveugle. Elle avait une maladie des yeux évolutive. Et le chant qu'elle nous demandait tout le temps de prendre au groupe de prière, c'était un chant qui était tiré d'un psaume. « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en contemplant que leur nombre est immense. » Demandons au Seigneur, mes frères et sœurs, mes amis, que le Seigneur nous éclaire sur les bienfaits qu'il nous fait chaque jour. Et si nous savons remercier le Seigneur, mais il va multiplier, je dirais, les grâces pour chacun et chacune d'entre nous. Et Thérèse continue, peut-être que je pourrais vous donner la référence, c'est dans Conseil et Souvenir. Thérèse continue en disant « J'en ai fait l'expérience, essayez et vous verrez. Ma gratitude est sans borne pour tout ce qu'il me donne et je le lui prouve de 1000 manières. » Il y a tant de raisons, hein, comme je disais, de remercier Dieu. Et saint Paul nous le demande. Il y a des conseils dans la Bible et puis il y a des ordres. Ben là, il y a un ordre. C'est un impératif lorsque saint Paul, en 1 Thessaloniciens 5:17, nous dit « Restez toujours joyeux, priez sans cesse, en toute condition, soyez dans l'action de grâce. » Toute condition, dites merci, hein, autrement dit. Et après, il continue en disant « C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. » Et plusieurs fois par jour, nous disons que ta volonté soit faite en priant le Notre Père. Et puis des fois, on se dit, Seigneur, quelle est ta volonté? On fait des sessions pour connaître la volonté de Dieu et on a raison d'en faire. Et on se dit, mais Seigneur, quelle est ta volonté? Ben, il y a au moins celle-là, on la connaît. Hein, c'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus, que toujours vous restiez joyeux et que vous puissiez prier sans cesse, qu'en toutes conditions vous soyez dans l'action de grâce. Et saint Paul l'écrit également aux chrétiens d'Éphèse, Éphésiens 5:20, lorsqu'il dit « En tout temps et à tout propos, rendez grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ». Donc voilà, l'action de grâce, c'est un premier petit conseil que je me permets de vous rappeler ce soir, mais n'oublions pas de dire merci à Dieu. Et puis, le deuxième, qui est dans le même élan du cœur, c'est la louange. La prière de louange, c'est une célébration de la puissance, de la bonté et de la beauté de Dieu. La louange pense plus à la personne de Dieu qu'à ses bienfaits. Elle nous invite à regarder davantage le donateur que ses dons. Je me souviens, souvent, on disait parfois à des personnes, et on en est tous, qui peuvent peut-être, courir dans tous les sens pour essayer d'accueillir les miracles de Dieu, et c'est bien, et notre Dieu est le Dieu des miracles. La foi, ça sert à croire des choses incroyables. Pour les choses croyables, on n'a pas besoin d'avoir la foi. Mais en même temps, des fois, on nous mettait en garde en disant, attention, recherchez davantage le Dieu des merveilles que les merveilles de Dieu. Et la louange, c'est un petit peu ça. Elle se tourne davantage sur la personne de Dieu que sur ses bienfaits. Elle pense plus à la personne. On pourrait dire qu'elle est plus théocentrique, centrée sur Dieu, perdue en Dieu. Et les hymnes de louange, et il y en a beaucoup évidemment dans le livre des psaumes, chantent Dieu parce qu'il est Dieu. Le petit pauvre d'Assise, saint François, disait « Dieu est, cela suffit ». Ça, c'est de la louange. Un Dieu est, cela suffit. Et le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2639, nous dit « La louange est la forme de prière qui reconnaît le plus immédiatement que Dieu est Dieu. Elle le chante pour lui-même, pas pour ce qu'il donne, mais pour lui-même. Elle lui rend gloire au-delà de ce qu'il fait parce qu'il est. Elle participe à la béatitude des cœurs purs qu'il aime dans la foi avant de le voir dans la gloire. La louange intègre les autres formes de prière et les porte vers celui qui en est la source et le terme, le seul Dieu, le Père, de qui tout vient et pour qui nous sommes faits. » Donc on peut dire, et j'aime à le dire, que par la louange, je me détourne de quelque chose ou de quelqu'un de très limité, et parfois même de très décevant, moi, pour me tourner vers le seul qui est illimité et qui pourra combler mon cœur, Dieu. Hein, passer de l'égocentrisme, le nombrilisme, au théocentrisme, contempler Dieu. Et il y a passablement de choses qui changent dans la vie lorsque petit à petit on s'inscrit dans cette attitude. Alors, pour cela, et c'est le thème central de mon petit propos de ce soir, il nous faut accueillir ce que j'appellerais le réflexe du cœur. Dans notre quotidien, il y a une multitude de situations qui nous invitent à la louange. Et tout peut devenir occasion de louange et d'action de grâce. Alors certains diront c'est de la naïveté. Il y a des gens qui se moquent un peu de ces personnes qui, en tout temps et en tout lieu, louent le Seigneur. Moi, je pense pas que c'est de la naïveté, mais c'est plutôt un moyen de demeurer dans la présence de Dieu ou de s'y replacer lorsqu'on on s'en était éloigné. Et cette manière de vivre dans la présence de Dieu, et à l'aide des témoins et des saints, je vais essayer de développer un peu, eh bien, va causer notre joie, une joie profonde, et aussi la joie du Seigneur, qui aime à demeurer en compagnie des hommes. Mais pour ça, il faut mettre en place ce que j'appelle parfois le réflexe du cœur. Et petit à petit, eh bien, ce réflexe du cœur va nous permettre de nous replacer continuellement en Dieu. Et comment ? Comment le faire ? Eh bien, en s'appliquant, en prononçant en toute occasion, même dans le secret de son cœur, pas forcément à haute voix, eh bien, des petites exclamations de louange, genre « Gloire à Dieu, loué sois-tu Seigneur », Jésus, je t'aime, ou tous les mots d'amour que vous avez dans votre cœur pour vous adresser au Seigneur. Et ces petites prières ont parfois l'habitude de couper court au laisser-aller et aux péchés qui peuvent m'envahir. Soyons concrets. Vous perdez un document, ou un collègue, ou un autre étudiant de l'Institut Philanthropos vous pique, par exemple, votre gomme, ou que sais-je encore, votre Tipex, eh bien, plutôt que de laisser monter en vous la colère, eh bien, on peut se replacer par ce réflexe spirituel sous le regard de Dieu. Des fois, on a des irrésistibles envies de râler. Ça vous arrive aussi, peut-être. Eh bien, à la place de râler, dire, ben non, Seigneur, je te bénis, et puis je te demande de bénir le frère qui m'a piqué la gomme. Je te demande aussi qu'il me la rende le plus vite possible, au passage. Mais voilà, hein, comme ça, voyez, ça coupe court, je dirais, au laisser-aller et aux péchés qui, parfois, peuvent nous envahir. Et pour cela, eh bien, il nous faut rentrer en nous-mêmes, dans cette zone où Dieu demeure, cette zone que la Bible appelle le cœur, et qui est beaucoup plus profonde que l'affectivité. Le lieu, simplement, de la rencontre entre l'Esprit du Seigneur et l'Esprit de l'homme. Et c'est ainsi que Jésus nous dira dans Matthieu 6, « Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. » Et je voudrais vous lire ici le témoignage d'une jeune fille qui s'appelle Marie et qui disait « Je rends grâce à Dieu de tout mon cœur pour sa présence continue qui m'habite depuis 4 ans. » Ce cœur à cœur avec Dieu m'a permis de garder le cap de l'espérance dans des moments de découragement, de solitude ou de révolte. Si j'ai pu poser des actes de foi, renouveler mon oui à Dieu dans des moments d'épreuve, c'est parce que Dieu était là et sa présence m'habitait. Il est là tout près de moi, dans le silence et le secret. Il me guide et me protège. Dans le quotidien de mes journées me revient régulièrement la prière du « Réjouis-toi » ou parfois le nom de Jésus. Ainsi pendant les trajets, en faisant du ménage ou en gardant les enfants, etc. » Donc elle a expérimenté, je dirais, hein, cette présence à la présence, vivre en sa présence, dans la présence de Dieu. Et cette décision, eh bien, de louer sans cesse ou de rendre grâce souvent, est une véritable arme pour le combat spirituel, hein, qui va nous aider à résister aux tentations d'énervement, de découragement, de jugement, de critique qui peuvent nous assaillir, etc. On voit comme ce réflexe, vous savez, le Saint Paul dans le passage sur le combat spirituel en Éphésiens 6 ou Philippiens 6, je crois, à un moment donné, il dit « Ayez le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du mauvais ». Mais le mauvais, ce n'est pas toujours un gros vilain avec des cornes. Il y a des moments, il vous arrive des tentations intérieures de vous décourager, de que sais-je encore. Et à ce moment-là, si on n'a pas le réflexe du cœur, eh ben, c'est la pente savonneuse. Mais si tout d'un coup, vous dégainez le bouclier, eh bien, en disant « Je te bénis, Seigneur, moi j'ai envie de me décourager, mais toi tu es mon roc et ma citadelle », et ça redémarre. Voyez le réflexe du cœur. Moi, j'ai fait plusieurs fois cette expérience, mais une fois un petit peu plus éloquente, c'est un témoignage qui me revenait en préparant un petit peu tout ça. C'était un soir où j'étais assez fatigué, dans une période où j'étais assez fatigué, ce qui, lorsqu'on prétend servir le Seigneur, arrive quand même assez souvent. Et voilà que ce soir-là, j'avais prévu me coucher un peu plus tôt que d'habitude. Et je pense que c'était légitime. Enfin, en tout cas, à mes vues. Et voilà que je me couche, et puis au moment où juste vraiment, vous savez quand on commence à se sentir bien là, tout ça, bon, il faut pas longtemps en général, et bien voilà, je m'endors et tout d'un coup le téléphone sonne, et à ce moment-là, j'avais une terrible envie de râler quoi, mais il a bien fallu aller décrocher le téléphone, et c'était un gars tout tranquille qui devait venir, effectivement on l'attendait, il n'était pas arrivé. Et puis voilà, en fait, il devait arriver, puis mais vraiment, il devait arriver à 5h, et là, c'était un peu plus de 22h, je pense. Puis il dit, c'est moi, je suis à la gare, est-ce que tu peux venir me chercher? Et en fait, il s'était complètement paumé, il venait de Toulon, et il avait demandé un billet de train pour Fribourg, et à Toulon, on lui a donné un billet pour Fribourg-in-Brisgau, en Allemagne. Hein, Fribourg-in-Brisgau, c'est aussi une cité estudiantine. Et il est allé en Allemagne, puis après, on lui a dit que, enfin, il s'est bien rendu compte qu'il n'était pas dans le bon Fribourg, et il est arrivé tranquille. Et à ce moment-là, il met arrivé, mais une de ces monstres envies de râler un bon coup, de me plaindre et tout, et une petite voix m'a dit, dis donc Bertrand, t'es pas en train de dire tout le temps à tes frères et sœurs qu'il faut louer en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, même quand ça va pas bien? J'ai dit, il faudrait que, dans la mesure du possible, tu puisses essayer de faire ce que tu demandes aux autres de faire, et j'ai mais oui, et alors j'ai essayé de louer Dieu pour cette situation et tout. Et quand on loue Dieu, comme dit Merline Carothers, des fois il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et cette fois-ci, rien d'extraordinaire ne s'est passé. J'ai grimpé dans ma voiture, je suis allé à la gare. Ce qu'il y a, c'est que j'ai vécu ce petit trajet de quelques kilomètres dans une grande paix, une grande joie intérieure au lieu de râler, ce qui est déjà assez reposant, en tout cas plus reposant que de râler. Et puis la deuxième chose avantageuse, c'est que j'ai accueilli ce frère fraternellement, au lieu de lui faire un tas de remontrances. Voilà, rien d'extraordinaire, mais voyez, la louange et la prière intérieure, rentre en toi-même et prie ton Père dans le secret. J'ai pas été à la chapelle, J'ai pas été faire oraison, je me suis même pas mis à genoux, mais comme ça, tout en conduisant la voiture, en me levant, eh bien, loué sois-tu Seigneur pour cette situation qui me contrarie, mais toi t'es quand même bon, même si la situation est contrariante, toi tu restes le Dieu bon qui m'aime et qui est miséricordieux. Et voilà que tout, rien n'avait changé, mais tout avait changé. Alors certains diront, mais peut-être que c'est une nouvelle méthode couée, c'est une méthode d'auto-persuasion en version chrétienne. Hein, vous connaissez tous Émile Coué qui a vécu entre 1857 et 1926. C'est un psychothérapeute français qui est devenu célèbre pour la méthode d'auto-suggestion qui porte son nom. Hein, la méthode couée, c'est tous les jours... Peut-être qu'il faut faire encore des gestes. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, etc. Et puis on dit que si on se répète cela un nombre assez important de fois, ça finit par marcher. Eh bien non, non. La louange n'est pas une méthode couée version chrétienne. Parce que dans la méthode couée, je dirais que on va comme contrer la réalité par la persuasion de son contraire. Hein, du genre, il fait froid, vous avez froid, puis vous dites j'ai chaud, il paraît qu'à la fin on a vraiment chaud, bon, mais c'est possible parce que le subconscient il agit aussi, hein, il commence à croire une réalité affirmée, bon, mais il faut un sacré moment, c'est peut-être parce qu'on se réchauffe à force de dire ça peut-être, mais donc voyez, la méthode Coué consiste à nier la réalité en se persuadant du contraire. Eh bien la louange c'est le contraire. Justement, c'est de contrer l'illusion de la solitude dans laquelle le monde m'enferme par le principe de les réalités selon lequel Dieu est réellement présent dans tout ce que je vis. C'est affirmer le réel. Il ne s'agit pas, pour prendre une image plus simple, de se persuader qu'il y a de la lumière dans une chambre noire. Il s'agit d'ouvrir les volets pour laisser entrer la lumière, qui de toute façon est là. La méthode Coué, dire il fait clair, ben non, il fait pas clair, il fait noir. Alors que dans la louange, c'est tout simplement se recentrer sur Dieu. Hein, je suis dans une pièce noire, dans la noirceur peut-être de je ne sais pas quoi, de ma solitude, de ma détresse, de mon angoisse, et je vais ouvrir les fenêtres en me tournant vers Dieu, qui dans l'angoisse est le réconfort, dans la ténèbre est la lumière, dans la tristesse est la joie, et simplement le laisser rentrer. Alors il y a des saints qui nous ont appris comment vivre cette prière du cœur, cette prière dans le secret. Et vous le verrez, elle est vraiment concrète parce qu'il y a des temps qu'il nous faut réserver à la prière, c'est-à-dire être complètement disponible à Dieu pour ça, par exemple les temps d'adoration ou la liturgie des heures. Mais il y a à tout moment de la journée, on peut vivre ce réflexe spirituel que j'évoque. Saint Jean-Marie Vianney disait, donc le curé d'Ars, « Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. » Je vous aime, ô mon Dieu, infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre sans vous aimer. Je vous aime, Seigneur, et la seule grâce que je vous demande, c'est de vous aimer éternellement. Et lui disait, mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Vous voyez la prière continue, hein, d'un homme de Dieu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle nous conseillait d'aménager un lieu secret et saint à l'intérieur de notre cœur. Elle l'écrit à sa sœur Céline, « Céline chérie, faisons dans notre cœur un petit tabernacle où Jésus puisse se réfugier, alors il sera consolé. » Et saint François de Sales va nous transmettre ses expériences des voies spirituelles, je m'arrêterai un petit peu plus sur lui, par des lettres qu'il va adresser à sa cousine, Madame de Charmoisy, vous connaissez tous Madame de Charmoisy, n'est-ce pas? Elle est plus connue sous le nom de Philothée, très bien, voilà un lecteur de saint François de Sales. Hein, il écrit l'introduction à la vie dévote en 1619, un livre dont le succès ne s'est jamais démenti, je vous le conseille beaucoup, et il écrit à une certaine Philothée, mais en fait Philothée c'est sa cousine qui s'appelle Madame de Charmoisy, mais si on lit ce bouquin puis on lit « Chère Madame de Charmoisy », on se dit « ça s'adresse sûrement pas à moi », alors que Philothée ça fait un peu plus monsieur et madame, enfin plutôt madame tout le monde. Voilà, et lui il écrit ceci. Ici, cher Philothée, et Philothée c'est chacun de nous, hein, donc chaque fois que je dis Philothée, vous pensez que ça s'adresse à vous et à moi aussi. Ici, cher Philothée, je souhaite que vous soyez fermement résolu à observer le conseil qui suit, car pour votre avancement spirituel, il est l'un des moyens les plus sûrs. Au cours de la journée, et le plus souvent possible, mettez-vous en la présence de Dieu. Voyez ce que Dieu fait et ce que vous faites. Vous constaterez qu'il vous regarde perpétuellement avec un amour incomparable. Ô mon Dieu, comment se fait-il que je ne vous regarde pas comme vous le faites? Pourquoi pensez-vous à moi si souvent, ô Seigneur ? Et moi, pourquoi si souvent, si peu souvent je pense à vous ? Ce qui fait penser à un père du désert qui disait, mon Dieu, si vous êtes partout, pourquoi se fait-il que je sois si souvent ailleurs ? Et saint François de Sales continue en disant, notre vraie place est en Dieu. Où sommes-nous, ô mon âme ? Comme les oiseaux ont des nids sur des arbres pour s'y retirer en cas de besoin, ainsi filotés, nos cœurs doivent-ils choisir chaque jour un abri, soit sur la montée du calvaire, soit dans les plaies de notre Seigneur, soit en quelque endroit tout près de lui pour s'y réfugier, et là s'y reposer des tracas extérieurs et s'y défendre des tentations. Ayez toujours présent à l'esprit, ô filotés, de vous retirer en la solitude de votre cœur, alors que, physiquement, vous êtes au milieu des conversations et des affaires. Et l'image qu'il prend est extraordinaire. Et c'est pour ça que François de Sales est très accessible, c'est parce qu'il prend toujours des images pour exprimer son propos. Il dit, regardez les oiseaux, ils volent un petit coup, puis tout d'un coup ils vont se poser sur une branche. Puis après ils revolent un peu, ils vont se poser sur une branche. Puis ils revolent, etc. Eh bien, saint François de Sales nous invite au milieu des occupations quotidiennes, eh bien à l'intérieur de notre cœur, et c'est possible même dans une conversation, et il ne s'agit pas de ne pas être présent à notre interlocuteur, mais tout simplement de rentrer en soi-même et dire, Seigneur, viens bénir celui qui parle avec moi maintenant. Ou tout simplement, Seigneur, merci pour cette conversation si agréable. Seigneur, donne-moi ton esprit, ça commence à chauffer. Apaise-nous. Enfin, vous voyez, on peut comme cela rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Et saint François de Sales continue en nous donnant l'exemple de sainte Catherine de Sienne. Et il dit, comme les parents de sainte Catherine de Sienne lui avaient supprimé le temps et le lieu propre à la contemplation, notre Seigneur lui inspira de faire un petit oratoire en son cœur pour s'y retirer en esprit tout en se donnant aux affaires extérieures. Et lorsque le monde la pressait, elle n'en était nullement affectée car, disait-elle, elle s'enfermait en son cloître intérieur où son céleste époux la consolait. Je me souviens une fois sur un programme, j'avais vu un titre de session ou de récollection. Le titre c'était « La prière de point l'antistress absolu ». Ah oui, si on fait ce que je vous dis, si moi-même je fais ce que je vous dis ce soir plus, parce que j'espère le vivre un peu quand même, mais je serai encore moins stressé. Rentrer en soi-même, dans ce lieu où la présence de Dieu est toujours prête à nous accueillir. Et François de Sales continue d'exposer sa méthode en disant ceci, « Aspirez donc bien souvent à Dieu, filoté, par de courts et ardents élancements de votre cœur. » Et on retrouve là ce que j'appelais tout à l'heure le réflexe spirituel, hein, de brèves exclamations de louanges prononcées ou intérieures. Ce sont, dit François de Sales, les oraisons jaculatoires. Jaculatoires qui vient du latin jaculari, lancer. Hein, les oraisons jaculatoires sont des prières courtes et ferventes. Les oraisons jaculatoires que le grand saint Augustin recommande instamment. Notre esprit, ô filoté, en s'adonnant à l'union avec son Dieu, se parfumera de toutes les perfections. D'ailleurs, cet exercice n'est pas difficile, puisqu'il peut être conjoint à toutes nos affaires temporelles. Même lorsqu'on est secrétaire du nonce apostolique et qu'on n'a pas tous les jours 2 heures de temps pour aller faire adoration, ben voilà qu'on peut revenir à Dieu dans le secret de son cœur. Voilà, peut-être conjoint à toutes nos affaires temporelles sans pour autant leur nuire. Et François de Sales dit, et je trouve remarquable, que ce soit comme refuge spirituel ou comme élancement intérieur, hein, des fois on a besoin de se réfugier. J'en peux plus, Seigneur, et vite, même en plein milieu d'une activité quotidienne, là, professionnellement, ou la mère de famille, il y a un moment, ça arrive à tous, on n'en peut plus. Eh bien, refuge spirituel, tout en passant l'aspirateur, hein, que ce soit comme refuge spirituel ou élancement intérieur. Il y a des moments où on dit, Seigneur, j'en peux plus, mais je sais que tu es mon rocher. Puis il y a des moments où on a envie de lui dire, mais Seigneur, tu es le plus beau, je t'aime, Seigneur. Voilà, élancement intérieur, ce ne sont que brèves diversions qui non seulement n'empêchent en rien ce que nous faisons, mais encore lui sont très utiles. Et encore une image, vous verrez, elle est délicieuse. Le pèlerin qui prend un peu de vin pour réjouir son cœur et rafraîchir sa bouche, bien qu'il fasse une courte halte pour cela, n'interrompt pas son voyage. Il prend des forces pour arriver plus vite et plus frais, et s'il s'arrête, c'est pour mieux repartir. D'autres images un peu plus contemporaines, c'est lorsque vous regardez le Tour de France, par exemple, à la télé, ben vous voyez des cyclistes, ils sont ravitaillés en course. Ils ne s'arrêtent pas, on leur tend une gourde, et puis ils boivent, mais ils continuent de rouler. Et il y a aussi les fameux avions qui sont ravitaillés en vol. L'avion ne va pas se poser, un autre avion s'approche de lui, plus grand que lui, et puis il le ravitaille en vol. Et saint François de Sales termine en insistant, il insiste et j'insiste aussi, la vraie dévotion réside en cet exercice de la retraite spirituelle, retraite dans le sens de se retirer à l'intérieur de soi-même, et des oraisons jaculatoires, car s'il peut suppléer au défaut de toutes les autres oraisons, son absence ne peut être réparée par aucun autre moyen. Sans lui, la vie contemplative est imparfaite et la vie active s'en ressent. Le repos n'est que oisiveté et le travail embarras. Aussi, je vous en conjure, embrassez-le de tout votre cœur et ne l'oubliez jamais. Je rappellerai juste que l'introduction à la vie dévote s'adresse aux religieux, mais avant tout aux laïcs. D'ailleurs, il y a une traduction de l'introduction à la vie dévote en français plus actuelle, qui est très fidèle et très excellente, qui s'appelle « La vie spirituelle dans le monde ». Donc c'est vraiment pour les chrétiens normaux qui ont envie d'être saints, mais qui ne sont pas forcément religieux. Un deuxième témoin de cette technique, si j'ose dire, c'est Frère Laurent, le cuisinier mystique. Frère Laurent de la Résurrection était carme au couvent des Carmes de Vaugirard à Paris, et il a vécu au XVIIe siècle. Et la mission qui lui a été confiée par sa communauté, c'était, selon l'adage de sainte Thérèse d'Avila, de chercher Dieu parmi les marmites. Il était cuisinier pour une communauté nombreuse. Et c'est au cœur des activités les plus banales, au cœur de sa vie de tous les jours, qu'il va découvrir et pratiquer sa voie d'union à Dieu, que on pourrait appeler la présence à la présence. Et cet homme-là est un témoin important. Parce que parfois, lorsqu'on est dans la vie quotidienne, et que la vie quotidienne nous pèse un peu, ce qui arrive quand même assez souvent, lorsque une maman est au milieu des tâches ménagères, et c'est très prenant, lorsque un homme est pris dans des activités professionnelles, il y a des petits moments où on aspire à être dans le silence d'un cloître ou d'un monastère. Là, pensons-nous, je pourrais faire ma sainteté. Mais vous comprenez, Seigneur, avec la situation qui est la mienne, eh bien, frère Laurent de la Résurrection, lui, nous enseigne qu'on peut atteindre les sommets de l'union à Dieu et de la vie mystique dans n'importe quelle activité quotidienne. Il dira ceci. Il n'est pas nécessaire d'être toujours à l'église pour être avec Dieu. Nous pouvons faire de notre cœur un oratoire dans lequel nous nous retirons de temps en temps pour nous y entretenir avec lui, doucement, humblement, amoureusement. Tout le monde est capable de ces entretiens familiers avec Dieu, les uns plus, les autres moins. Il sait ce que nous pouvons. Commençons. Peut-être n'attend-il de nous qu'une généreuse résolution, courage. Quand il dit commençons, il est un peu comme Coluche, hein, quand il disait je suis sportif, je commence demain. Nous, on est un peu comme ça des fois. Je suis contemplatif, je commence demain. Puis, un peu comme le gars qui avait un salon de coiffure, vous savez, puis il avait mis un panneau pour attirer le client sur sa devanture, puis il avait mis « Demain, on rase gratis ». Voilà. Et puis alors le gars, il vient se faire coiffer aujourd'hui, puis il dit bon, « Je peux bien attendre un jour, si demain c'est gratuit, je reviendrai demain ». Puis le lendemain, il vient, il rentre, il se fait coiffer, puis après le coiffeur lui donne la... Et lui donne le ticket de caisse et la facture, et puis il dit, mais comment ça, c'était marqué sur le panneau, demain on rase gratis. Puis là, il dit, non, pas du tout, vous êtes trompé, monsieur. Ah non, je suis sûr, je vous dis que c'est demain qu'on rase gratis. Et il fait sortir, il lui montre le panneau, il y était toujours. Bon, ben nous, en vie spirituelle, on est un peu comme ça. Hein. Ou en vie, demain j'arrête de fumer, puis demain. Ou alors, pour la vie de prière, le soir on est fatigué, on dit, bon, je prierai demain matin, mais alors demain matin c'est sûr. Et puis, maintenant il y a des réveils à rappel, je ne sais pas si vous avez des réveils comme ça, hein, snooze, vous savez, vous appuyez sur snooze, puis ça vous laisse 8 minutes de rattrapage là. Et puis quand vous avez appuyé 3 fois sur snooze, il faut vraiment se lever en 2 minutes, se laver les dents, et bon, il n'y a plus grand chose pour l'oraison. Alors on dit ce soir. Puis ce soir, quand je sais pas, quand vous avez fait tout ce que vous avez à faire, réviser vos cours et tout, on dira demain matin. Bon, c'est toujours je suis sportif, je commence demain. Eh bien, non, mes frères et sœurs. Lorsqu'on prend une résolution chrétienne, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le moment favorable. Et comme frère Laurent de la Résurrection, même s'il n'était pas très cultivé, il connaissait le cœur de l'homme et il disait commençons. Peut-être n'attend-il de nous qu'une généreuse résolution, courage. Et le père Conrad de Mester, un carme belge qui nous a bien aidé à comprendre la doctrine des grands saints du Carmel, notamment dans son ouvrage « Les mains vides » sur Thérèse de Lisieux, eh bien, va nous aider à comprendre la valeur de la méthode du frère cuisinier. Il dit ceci, « Quelle gamme d'expérience la cuisine lui offre ?» Vous pouvez pourrais dire ça à la sœur cuisinière, peut-être qu'elle le connaît déjà, mais ici dans la maison. Heure de pointe, stress, demande inopportune, régime d'exception, estomac délicat, contentement médiocre des consommateurs, manque d'attention, monotonie des gestes identiques, fatigue, désordre qui doit devenir de l'ordre. C'est presque aussi valable pour les mères de famille, ça. Et les éternelles vaisselles, etc. Sa pratique de la présence à Dieu est vraiment enracinée dans la vie. Laurent est un mystique du quotidien. Son ermitage, il a dû le construire dans son cœur. Il rejoint le sommet de la montagne du Carmel au-dedans de lui-même. Ça fait penser à saint Augustin. Ô beauté, si cachée, longtemps je t'ai cherchée, je te cherchais au dehors et tu étais au-dedans. Ça a été un des grands virages de saint Augustin. Alors, en quoi consiste cette méthode si désirable? Eh bien, lui aussi, à travers les lettres qu'il a écrites, nous l'a décrit. Et je le donne chaque fois avec d'autres mots. Il y avait les mots de Catherine de Sienne, de saint François de Sales, pour que vraiment nous puissions voir que c'est accessible à chacun d'entre nous. Saint Laurent dit « Puisque vous souhaitez, avec tant d'empressement, que je vous fasse part de la méthode que j'ai gardée pour arriver à cet état de présence à Dieu, où notre Seigneur, par sa miséricorde, a bien voulu me mettre, voici ce que je peux vous en dire. » Je l'y adorais le plus souvent que je pouvais, tenant mon esprit en sa sainte présence et le rappelant autant de fois que je l'en trouvais distrait. Je n'eus pas peu de peine à cet exercice que je continuais malgré toutes les difficultés que j'y rencontrais. Au début, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est comme le piano, il faut persévérer. Sans me troubler ni m'inquiéter lorsque j'étais distrait involontairement. Si on a des échecs, il faut continuer de persévérer. Je ne m'y occupais pas moins pendant la journée que pendant mes oraisons, car en tout temps, à toute heure et à tout moment, dans le plus fort même de mon travail, je bannissais et éloignais de mon esprit tout ce qui était capable de m'ôter la pensée de Dieu. Voilà, ma révérente mère, ma pratique ordinaire depuis que je suis en religion. Quoique je ne l'ai pratiqué qu'avec beaucoup de lâcheté et d'imperfection, j'en ai cependant reçu de très grands avantages. Enfin, à force de réitérer ces actes, ils nous deviennent plus familiers et la présence de Dieu devient comme naturelle. Vous savez, c'est le principe de la vertu. La vertu, s'acquiert par répétition et finalement elle devient naturelle et même agréable. Mais au début, il faut de la persévérance et de l'effort. Remerciez-le, s'il vous plaît, avec moi, de sa grande bonté à mon égard, que je ne peux assez admirer pour le grand nombre de grâces qu'il a faites à un aussi misérable pécheur que moi. Il soit béni de tout. Amen. Je suis en notre Seigneur. Et dernière lettre de frère Laurent, il écrivait à une dame dont le mari était engagé dans les armes, donc dans une profession assez prenante quand même. Une petite élévation de cœur suffit, un petit souvenir de Dieu. C'est ça. Une adoration intérieure, quoique en courant l'épée à la main, sont des prières qui, pour courtes qu'elles soient, bon, c'était un moment donné où, en se combattant, on pensait servir Dieu. Voilà, et peut-être qu'une fois ou l'autre dans l'histoire, ça a pu être vrai. L'épée à la main sont des prières qui, pour courtes qu'elles soient, sont cependant très agréables à Dieu et qui, bien loin de faire perdre le courage dans les occasions les plus dangereuses à ceux qui sont engagés dans les armes, les fortifient. Qu'il s'en souvienne donc le plus qu'il pourra, qu'il s'accoutume peu à peu à ce petit mais saint exercice. Personne n'en voit rien. Il n'est rien de plus facile que de réitérer souvent, pendant la journée, ces petites adorations intérieures. Voilà, ce réflexe spirituel, cette attitude de revenir souvent à Dieu, par ces petites élévations du cœur, par ces oraisons jaculatoires, appelons-les comme nous voulons, eh bien, est accessible à tous. Pas seulement aux consacrés ou aux prêtres, pas seulement à ceux qui ont énormément du temps, mais voyez, c'est justement une méthode d'union à Dieu pour des personnes qui sont très prises. Et frère Laurent dira « Cette vue amoureuse de Dieu présent partout est la plus solide, la plus facile et la plus efficace manière d'oraison. » Alors, je dis rapidement, mais je le dis avec insistance, ce que je vais dire maintenant, cette méthode, entre guillemets, aussi profitable soit-elle, évidemment ne dispense personne de se réserver des temps gratuits avec Dieu, pour l'adoration et pour l'oraison. Ça, c'est évident, mais elle nous permet, si vous voulez, comme de prolonger l'intimité avec le bien-aimé. On pourrait dire que finalement, elle unifie nos vies. Il n'y a pas une heure le matin l'oraison, ou deux heures le soir, ou la nuit l'adoration, et puis le reste je ne sais pas quoi, la profession. Cette manière de faire nous permet finalement d'unifier nos vies, de prolonger la contemplation dans toutes les activités de la journée. Et je redis cet appel impératif de saint Paul, priez sans cesse. Priez sans cesse, en toutes conditions, soyez dans l'action de grâce, c'est la volonté de Dieu sur vous, dans le Christ Jésus. Et en Éphésiens, je le répète encore, en tout temps et à tout propos. Rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, tout au long du jour, nous pourrons vivre en la présence du Seigneur, en nous recentrant continuellement sur lui. Et je vous assure que nous pourrons témoigner véritablement si nous vivons cela. Je me souviens d'une personne qui est aujourd'hui consacrée, mais qui a vécu dans son enfance une vie extrêmement mouvementée, puisqu'elle a été confiée à la DAS en France, et elle a été continuellement charriée d'une famille d'accueil à l'autre, et elle a vécu vraiment une vie tout à fait difficile. Un jour, elle a été accueillie par une famille chrétienne qui l'ont placée dans un collège où il y avait, dans ce collège, 5 consacrés, dans une immense école, 5 consacrés, mais totalement civils. C'était l'époque où on pensait que pour mieux évangéliser, eh bien, il fallait que les personnes consacrées soient complètement perdues, sans aucun signe distinctif au milieu des autres. Et elle disait, aussi bien ma sœur que moi, elles étaient 2 sœurs jumelles, après quelques instants, on avait repéré lesquelles de ces personnes étaient des âmes consacrées à Dieu. Sans témoignage, sans signe distinctif, sans voile, sans croix, sans rien. Parce que ces femmes-là avaient une vie d'union à Dieu. Et Saint Séraphim de Sarov disait, acquiert la paix du cœur et une multitude trouveront la paix autour de toi. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit, hein, de rentrer en nous-mêmes. Nous cherchons la paix, mais la paix, eh bien, elle est dans ce cœur à cœur avec Jésus. Et alors, des exemples, il y en a toute la journée. Moi, j'ai essayé de prendre l'habitude, par exemple, avant de saisir le combiné du téléphone, quand j'entends sonner, mais de dire, Seigneur, bénis cette personne. Je ne sais pas qui me téléphone, mais peu importe. Bénis cette personne. Ou alors, lorsque je rencontre une autre personne, ou comme ça, mais plusieurs fois dans un entretien, je peux confier cette personne ou le propos que nous sommes en train d'échanger au Saint-Esprit du Seigneur. Ça ne me rend pas moins attentif. Au contraire, ça me rend plus attentif. Dans la rue, dans le métro, vous pouvez prier pour toutes les personnes que vous croisez. Hein, vous voyez quelqu'un qui a l'air un peu plus paumé et tout, mais bénis-le, Seigneur. Si on fait le geste, ça se voit, mais avec ou sans geste, peu importe. Bénis-le, Seigneur. C'est tout simple. Est-ce que c'est de l'infantilisme? Je crois pas. Je crois plutôt que c'est l'esprit d'enfance de celui qui sait que son père n'est jamais loin. Et qu'en tout temps, en tout propos, en toute situation, eh bien, nous pouvons courir, nous jeter dans ses bras et nous réfugier contre son cœur. Et si nous entrons dans cette attitude, cette pratique de manière habituelle et fervente, eh bien, on goûtera progressivement ce que veut dire vivre en sa présence. Et spontanément, je vais terminer bientôt, tout bientôt, spontanément, on a tendance, et ça nous guette tous, hein, même les professionnels du bon Dieu, eh bien, à distinguer la prière et la vie active ou la vie étudiante. Eh bien, faisons attention parce que la distinction prière et action devient vite séparation. Et dans une société sécularisée comme la nôtre, où on exige beaucoup des hommes dans leur vie sociale et professionnelle, eh bien, on a vite fait, je dirais, de couper notre vie en tranches de saucisson, où finalement, notre vie n'est plus du tout unifiée. Et d'autant plus qu'on nous demande, et de plus en plus, hein, qu'on ne manifeste aucun signe extérieur de piété ou de foi. Encore récemment, je lisais dans je ne sais plus quel journal qu'un frère de Saint-Martin, dans le diocèse de Toulon, on lui avait interdit d'aller donner l'aumônerie en habit. Parce que la loi du port du voile islamique, elle est valable pour tous les signes distinctifs religieux. Il y aura un jour, quand on ira faire des missions dans des bahuts, il faudra qu'on plante la croix, etc. Donc, vous voyez, et on a comme tendance de plus en plus à tolérer, au nom de la sacro-sainte tolérance, de tolérer le comportement religieux, mais uniquement dans la sphère privée, ou en milieu explicitement chrétien. Et le fait de vivre, je dirais, cette présence à Dieu, bien fait qu'on peut continuellement, on peut être des chrétiens et pas seulement 1h30 le dimanche matin avant le rôti. On est chrétien à plein temps, c'est du 100%. Qui ose faire un signe de croix avant prendre le repas dans un restaurant universitaire? Qui ose apposer visiblement une icône ou un crucifix dans son bureau? Il y a des trucs, des fois on peut pas, parce qu'on peut pas, mais à la limite vous en mettez un dans le tiroir, puis quand vous dites attendez, je vais sortir mon agenda, hop, vous avez la petite icône en même temps. Voilà, il y a des moyens comme ça de nous rappeler continuellement à la présence à Dieu. Toute ma vie intéresse Dieu. Dans la réalité, il n'y a pas d'un côté ma vie active et de l'autre côté ma vie spirituelle. Dieu, il m'aime et il me regarde tout le temps, même quand je suis au travail. Et toute ma vie l'intéresse. Et ces petits breaks spirituels eh bien, font que je vais pouvoir faire de ma vie finalement une vivante offrande à la gloire de Dieu et mener une existence vraiment chrétienne, même au cœur des activités les plus prenantes. Et ainsi, là où le Seigneur m'a planté, parce qu'il nous faut fleurir là où Dieu nous plante, eh bien, je deviendrai un intercesseur, un artisan de paix, un chrétien, tout simplement un chrétien en tout temps et en tout lieu. Alors, je termine, mes frères et sœurs, en vous disant encore une fois une parole de Jean-Paul II, toujours de la même encyclique, Tertio Millenio Enoiente, à l'aube du troisième millénaire, parce que je crois que plus que jamais, le chemin de la sainteté, c'est d'abord un chemin d'union à Dieu. Et Jean-Paul II dira, oui, chers frères et sœurs, nos communautés chrétiennes doivent devenir d'authentiques écoles de prière, où la rencontre avec le Christ ne s'exprime pas seulement en demande d'aide, mais aussi en action de grâce, louange, adoration, contemplation, écoute, affection ardente, jusqu'à une vraie folie du cœur. Ce n'est pas un petit charismatique un peu chauffé qui vous dit une folie du cœur, c'est Jean-Paul II. Il s'agit donc d'une prière intense qui toutefois ne détourne pas de l'engagement dans l'histoire. En ouvrant le cœur à l'amour de Dieu, elle l'ouvre aussi à l'amour des frères et rend capable de construire l'histoire selon le dessein de Dieu. Je pense que si vous êtes ici cette année pour vivre une formation à cet institut Philanthropos, c'est justement vous aussi pour construire, pour prendre part à cette construction de l'histoire selon le dessein de Dieu. Je ne pense pas que notre humanité a d'autre issue dans l'époque où nous sommes que de construire selon le dessein de Dieu. Si nous voulons être des artisans de la civilisation de l'amour, eh bien, il nous faudra travailler dans ce sens-là. Mais comment construire selon le dessein de Dieu si nous n'avons pas d'intimité et d'amitié avec lui? Eh bien, c'est la prière, la fréquentation des sacrements, l'adoration que vous pratiquez intensément dans cette maison, sans aucun doute, mais aussi eh bien, ce cœur à cœur de tous les instants avec le Seigneur qui va faire de nous ces artisans de paix dont le monde a besoin. Amen.